Quelqu'un a dit que vous pouvez en connaître beaucoup sur une société par la façon dont elle traite ses enfants. Dans l'Ancien Testament, pendant que les peuples païens sacrifiaient leurs enfants à des dieux étrangers, à des dieux païens, les Juifs enseignaient leurs enfants et leur disaient « Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur seul est notre Dieu. Tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Les Israélites avaient pris au sérieux lorsqu'il leur avait dit, elle leur avait imprégné ces vérités dans le cœur, leur avait demandé, pardon, d'imprégner ces vérités dans le cœur de leurs enfants. Tu enseigneras ces vérités à tes enfants, tu en parleras quand tu seras assis chez toi, ou quand tu te coucheras, ou quand tu te lèveras, pour ne pas les oublier. Tu les attacheras sur ton bras et sur ton front, tu les écriras sur les montants de portes de ta maison et sur les portes de la ville. Nos enfants, on l'a dit tout au long de ce culte, nos enfants sont des cadeaux de Dieu. Nous devrions les chérir et en nous rappelant qu'ils nous sont prêtés. Jésus a dit, « Celui qui reçoit un enfant comme celui-ci à cause de moi, me reçoit moi-même. » Et j'aimerais lire quelques versets dans les psaumes 127 et 128. Ces deux psaumes qui sont très courts, qui ont été placés un à côté de l'autre pour une raison, ils nous enseignent ce que représentent les enfants pour Dieu et comment ils peuvent être une source de bénédiction et non pas un fardeau pour les parents. Alors pour ceux qui ont leur Bible, dans le psaume 127, on va regarder le premier verset, le verset 3. C'est le roi Salomon qui a écrit ses psaumes. Et il dit ceci, « Des enfants, voilà les vrais biens de famille, la récompense que donne le Seigneur. » Ce verset nous apprend que les enfants viennent directement de la main de Dieu. Ils sont des cadeaux envoyés du ciel sur la terre par Dieu qui crée la vie dans le ventre de la mère. Quand Ésaü vit les femmes et les enfants, il demanda à Jacob, « Qui sont ces gens qui t'accompagnent, Jacob? » Et Jacob a répondu, « Les enfants que Dieu m'a accordés. » Ce sont les enfants que Dieu m'a accordés. Plus tard, Jacob aperçut les fils de Joseph et demanda, « Qui est-ce? » « Ce sont les fils que Dieu m'a donnés ici en Égypte, » répondit Joseph. Moïse dit au peuple d'Israël un jour, dans son amour, « Dieu vous rendra prospère, il vous accordera de nombreux enfants. » En principe, nous voulons tous que l'on se souvienne de nous après notre départ sur cette terre. Et les enfants qui sont un héritage de Dieu sont un moyen de préserver la famille dans la prochaine génération. Et plutôt que de construire des empires, les parents sont d'abord appelés à construire une famille. Si vous êtes des parents, sachez que vos enfants se rappelleront de vous et cet héritage demeurera longtemps après que vos réalisations personnelles aient été complètement oubliées par ceux que vous aurez fréquentés. Il arrive parfois qu'un couple ne peut pas avoir d'enfants, et ce, pour diverses raisons. Ce passage ne nous dit pas que le fait de ne pas avoir d'enfants constitue une calamité. Il affirme seulement que les enfants sont une bénédiction venant du Seigneur. Qu'en est-il des couples qui veulent désespérément avoir des enfants et qui ne peuvent pas en avoir? Eh bien, j'ai remarqué personnellement que ces couples deviennent souvent les parents des enfants du monde, c'est-à-dire, vous en retrouvez certains qui travaillent auprès des enfants abandonnés, vous en trouvez d'autres qui adoptent des enfants et certains qui s'investissent en ministère pour enfants, particulièrement dans l'Église ou dans un milieu s'occupant des enfants en difficulté ou à risque. Il y a tellement d'enfants qui n'ont personne pour s'occuper d'eux et Dieu bénit ceux qui manifestent l'amour de Jésus à ses enfants du monde. Il n'y a pas de plaisir plus grand dans la vie que celui de voir grandir ses propres enfants, surtout lorsqu'ils vous ressemblent, imitent vos faits et gestes et pourtant qu'ils sont si différents. Ils marchent comme vous, ils parlent comme vous, ils rient comme vous, et pourtant, ils possèdent leur propre personnalité. Combien de fois on entend une mère dire « Ah, toi, tu ressembles bien à ton père », et combien souvent on entend le père qui dit « Ah, sa fille, toi, tu ressembles vraiment à ta mère, hein? » Ouais, c'est comme ça, hein? C'est comme ça. Mais par contre, leur personnalité, elle est unique. Leur personnalité, elle est unique. Celui qui laisse derrière lui des enfants qui aiment le Seigneur et marchent dans ses voies ne peut prétendre avoir vécu pour rien. Quelqu'un m'a montré un jour une plaque qu'il avait achetée pour son bureau et sur laquelle il était écrit « Rien ne me rend plus heureux que d'apprendre que mes enfants vivent dans la vérité. » Les enfants sont comme des flèches qui doivent être affûtées et pointées dans la bonne direction. Regardez au verset 4, qu'est-ce qu'il est écrit. Il est écrit que les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. On va regarder un petit peu le contexte de ça et vous allez voir que c'est quand même très parlant. Une flèche est un petit morceau de bois qui peut paraître insignifiant, mais qui peut causer de graves dégâts. Une flèche peut voyager assez loin. Une flèche doit être bien affûtée afin d'atteindre la cible que nous avons choisie. Que visons-nous, chers amis, pour nos enfants? Que visez-vous pour vos enfants? Quel est l'avenir que vous voulez que vos enfants aient? Qui sait jusqu'où nos enfants peuvent se rendre dans la vie? Pensez à ce que nos enfants peuvent devenir. Et à cette époque, les archers passaient de nombreuses heures à préparer leurs flèches. Ils choisissaient minutieusement le bon bois et ils le coupaient à la bonne taille, puis ils passaient des heures à le polir, à le façonner et à adapter les plumes et la pointe de la flèche sur ce bout de bois. Ils vérifiaient minutieusement l'équilibre de leur flèche, parce qu'une flèche mal équilibrée pouvait être dangereuse pour eux-mêmes. Je ne sais pas si... je pense que le morceau de bois devait être droit. Vous imaginez quelqu'un qui se faisait une flèche qui était en demi-lune, il risquait de lancer, puis la flèche revienne par en arrière. Hein? Mais donc, c'était quand même un art à l'époque. Il n'y avait pas d'usine comme aujourd'hui pour fabriquer des flèches en série. Et c'était vraiment des hommes de métier, c'était les guerriers qui préparaient leurs propres flèches pour être certains que finalement, ces flèches-là étaient bien équilibrées. Mais vous allez voir l'application qu'on peut en faire, l'application spirituelle qu'on peut en faire. Beaucoup de parents espèrent que leurs enfants ne fumeront pas, ne boiront pas, ne se drogueront pas et ne leur causeront aucun problème. Même si tout cela est bien légitime, parfois nos rêves pour nos enfants sont quand même trop petits. Nous voulons qu'ils reçoivent une bonne éducation, qu'ils aient une belle carrière, une belle maison, qu'ils marient quelqu'un de bien et qu'ils quittent un jour la maison familiale pour faire leur propre vie. Mais est-ce que c'est ça qui leur garantit le bonheur, honnêtement? Est-ce que c'est ça qui garantit le bonheur d'avoir une maison, d'avoir de l'argent, d'avoir un bon travail, d'être en bonne santé? Ces quatre choses que je vous dis peuvent tomber un derrière l'autre. On est en santé aujourd'hui. Il s'agit juste qu'il y ait une cellule dans le cerveau qui décide de déconnecter et c'est fini. La maison, on n'est plus capable de s'en occuper. On vient de perdre notre emploi. Et finalement, on est entre les mains des médecins qui vont, différents moyens, chimiothérapie, rayons ou autres, qui vont essayer de brûler, d'éliminer ce qui ne va pas dans nos vies. Si nous voulons que nos enfants nous voient comme Dieu nous voit, nous devons leur transmettre des valeurs chrétiennes qui sont tellement décriées et reniées aujourd'hui. Quand vous entendez souvent dans des journaux la source des calamités dans ce monde aujourd'hui, souvent, on dit que c'est la faute du monde judéo-chrétien. Eh bien, je ne suis pas convaincu que si le monde s'améliore aujourd'hui, c'est pour le bien du monde. J'ai l'impression que s'il y a une évolution dans le monde aujourd'hui, eh bien, c'est pour un désastre. Il faut être carrément aveugle et qu'on ne peut pas continuer à vivre les prochaines 50 années comme on vient de vivre les 50 dernières années. Alors, on peut dire ce qu'on veut sur le christianisme. Mais le christianisme, je ne vous parle pas de religion ce matin. Je veux simplement vous parler d'une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Une personne qui change des vies, une personne qui bouleverse des cœurs, qui est capable de réparer tous les abus qu'on a pu vivre. Moi, je suis un estropié de la vie. Et Dieu m'a complètement libéré, m'a complètement restauré. Pourquoi? Parce qu'il m'a permis de naître de nouveau. C'est une expression de la Bible. Naître de nouveau, c'est recommencer une nouvelle vie sur de nouvelles bases et me permettre de me libérer de tous les abus que j'ai eus dans ma vie dans le passé. Et il peut le faire encore pour vous aujourd'hui parce qu'il est vivant. Et si vous priez Dieu avec vos propres mots, eh bien, Dieu vous entend et Dieu va vous répondre, Dieu va vous prendre au mot. Et c'est pour ça que je peux vous dire ce matin que Dieu est vivant. Amen. Que Dieu est vivant. Dieu est vivant. Mettez-le au défi. On est gêné, on est mal à l'aise. Parce qu'on sait dans quel état on vient de voir. Hein? On n'est pas toujours droit dans nos bottes. Hein? Et on sait que Dieu, la Bible nous dit que Dieu est trois fois saint, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ombrage de mal dans le cœur de Dieu. Alors on se présente en des pauvres pécheurs, on se présente devant lui. Et souvent on est gêné parce qu'on sait que il y a des choses qu'on a faites qui ne plaisent pas nécessairement à Dieu. Mais Dieu, si Dieu déteste le péché, la Bible nous dit que Dieu aime le pécheur et que Dieu a tout fait pour sauver le pécheur. C'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique, quoi. C'est ça qui est merveilleux, quoi. Est-ce que vous réalisez de qui on parle ce matin? De celui qui tient l'univers dans ses mains. De celui qui tient l'univers dans ses mains, qui est tellement grand que vous regardez la grandeur de l'univers et Dieu est encore plus grand que l'univers et que Dieu tient l'univers dans sa main. Est-ce que vous réalisez? Tantôt, dans une prière, quelqu'un a dit que Dieu connaît le nom et a donné un nom à chacune des étoiles qu'il y a dans le ciel. Ouais. Est-ce que vous réalisez que ce Dieu, peu importe la langue que vous parlez, peu importe tout ce qui se murmure dans le monde en même temps, il n'y a aucune parole, aucun son qui échappe à Dieu? Est-ce que vous pouvez imaginer la grandeur de Dieu? Et l'homme aujourd'hui, eh bien, quand vous écoutez les hommes, il y a des hommes qui se prennent pour Dieu aujourd'hui à travers ce qu'ils parlent. On ne peut pas s'imaginer ce que Dieu peut être avec notre petite intelligence humaine. Ouais. Et pourtant, ce grand Dieu qui tient l'univers dans ses mains, La Bible nous dit qu'il s'est fait homme, il s'est fait tout petit dans la personne de Jésus-Christ et qu'il est venu mourir pour vous, pour moi, pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Lui, il n'avait pas besoin de se réconcilier avec nous, il n'a jamais fait de mal. Mais nous, on avait besoin d'être réconciliés avec lui. Et il n'a pas attendu qu'on fasse le premier pas, il a fait le premier pas à travers la personne de Jésus-Christ. Et non seulement il s'est fait petit, il s'est humilié en se faisant homme dans la personne de Jésus-Christ, mais il est encore plus petit que ça, par son esprit, il habite dans le cœur de chaque être humain. Et c'est lui qui parle, c'est lui qui nous parle jour après jour, pour nous montrer jusqu'à quel point il nous aime, pour nous rappeler jusqu'à quel point il nous a aimés. Chers amis, si nous voulons que nos enfants nous voient comme Dieu nous voit, nous devons leur transmettre des valeurs chrétiennes. Cela n'arrive pas par accident. Vous devez, comme des flèches, les affûter en utilisant la parole de Dieu pour qu'ils soient orientés dans la bonne direction. Les enfants sont la force. Regardez au verset 5, qu'est-ce qu'il est écrit, rapidement. Les enfants sont la force de la maison. Heureux l'homme qui peut en remplir son carquois. Alors, carquois, c'est l'étui dans lequel on déposait les flèches. Il ne risque pas d'être humilié quand il doit plaider contre ses adversaires à la porte de la ville. La Bible ne nous dit pas combien d'enfants nous devons avoir, mais elle parle que les enfants sont toujours une source de bénédiction pour les parents. Dieu n'a jamais imposé aux parents le nombre d'enfants qu'ils devaient avoir. Les carquois sont comme des chaussures, ils viennent en plusieurs tailles. Et déterminez la taille que vous avez et demandez à Dieu de vous aider à le remplir. À cette époque, les enfants étaient la version biblique de la sécurité sociale. Ils venaient en aide à leurs parents dans la vieillesse. Si les parents avaient des enfants qui les aimaient, ils étaient plus en sécurité que s'ils possédaient 5 millions d'euros à la banque. Heureux l'homme qui peut en remplir son carquois. Il ne risque pas d'être humilié quand il doit plaider contre ses adversaires à la porte de la ville. Et à cette époque, la porte de la ville, c'était l'endroit où les hommes, où le peuple se rencontrait, particulièrement les hommes, pour régler les affaires courantes de la ville. C'était également l'endroit où les hommes sages statuaient et rendaient des jugements. Et un père qui avait beaucoup d'enfants, c'est-à-dire beaucoup de flèches dans son carquois, eh bien, avait en même temps beaucoup de défenseurs quand il était faussement accusé. Ses enfants se levaient et confirmaient que leur père était quelqu'un d'honnête. Remarquez que l'auteur ici ne dit rien sur l'argent, le pouvoir ou la position sociale qu'une personne occupait. On ne voyait pas la bénédiction de Dieu à travers les richesses matérielles que quelqu'un possédait, mais à travers une famille heureuse dont les membres se ralliaient entre eux à chaque fois que des problèmes survenaient au sein de la famille. C'est une parole à méditer pour ceux et celles qui sont des bourreaux de travail. La Bible dit « À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd sa propre famille? » Je n'ai jamais entendu un homme dire sur son lit de mort « J'aurais aimé passer plus de temps au bureau. » Ce que j'ai plutôt entendu, c'est ceci. « J'aurais aimé passer beaucoup plus de temps avec les membres de ma famille. » Puissions-nous être suffisamment sages pour mettre cela en pratique pendant que nous en avons l'opportunité. Cela n'empêche pas quelqu'un d'aspirer à avoir une belle carrière ou à travailler dur pour réussir, mais c'est tout un plaidoyer pour faire en sorte que nos priorités soient bien équilibrées et pour nous rappeler que ce qui devrait compter le plus à nos yeux, ce sont les membres de notre famille. Et simplement vous dire quelque chose en passant. Si vous ne prenez pas le temps d'élever vos enfants, si je ne prends pas le temps d'éduquer mes enfants, il y en a d'autres qui vont le faire à votre place et vous ne savez pas ce qu'ils vont déposer dans leur cœur. C'est très important qu'on se rappelle nos responsabilités en tant que parents. On ne fait pas juste des petits pour s'assurer qu'on va avoir un héritier. On ne fait pas juste des petits pour toucher des allocations familiales. C'est une grande responsabilité en tant que parent. Et je le répète, si vous ne prenez pas le temps d'investir du temps dans vos enfants pour les éduquer, il y en a d'autres avec des esprits malveillants qui vont prendre votre place et qui vont leur remplir la tête de n'importe quoi. Et un jour, vous vous trouverez, aux surprises, on viendra vous annoncer que vous avez quelqu'un qui se drogue, qui se pique, une fille qui se prostitue, une fille qui a des gros problèmes. Et là, c'est vous qui allez être pris avec le gros problème, parce que ceux qui les ont éduqués de cette façon-là, eh bien, ils vont s'en laver les mains. On a besoin, en tant que parents, de se responsabiliser, de se rappeler que la responsabilité d'éduquer nos enfants, c'est à nous que ça revient. Derek Kinder, connu au Royaume-Uni pour ses nombreux commentaires de l'Ancien Testament, souligne dans un de ses livres que l'éducation des enfants peut s'avérer parfois être quelque chose d'ennuyeux et difficile et qu'ils peuvent être autant un fardeau qu'une bénédiction. Cependant, ajoute-t-il, il n'est pas inhabituel de voir que certains dons que Dieu a donnés à un enfant peuvent dormir en lui pendant un certain temps, pour ensuite éclore, rendu un certain âge, et ce, pour le plus grand bénéfice des enfants. Pardon, des parents. Ouais. Ouais. Il y a combien d'enfants parmi plusieurs que nous avons qui nous dérangent parce qu'ils bougent, ils n'arrêtent pas de bouger. Ils nous empêchent même de dormir. Et ils nous inquiètent. Et on se dit, mais es-tu bête, celui-là? Alors, ça arrive, ça, hein, que les gens disent, ah, il est bête, lui, il manque un... Je ne sais pas comment vous dites ça ici en Belgique, mais au Québec, on dit il manque un bearing dans le cerveau. Hein? Ouais. Ouais. Et pourtant, chers parents, hein, moi je vous parle de votre expérience. Hein, c'est celui que vous allez préférer le plus parmi tous vos enfants. Parce qu'il vous aura coûté du temps. Il vous aura demandé des efforts. Vous aurez consacré beaucoup de temps pour cet enfant-là. Et vous allez voir à un moment donné qu'il va être là, qu'il va être là. Et vous allez vous dire en vous-même, j'aurais jamais pensé qui en aurait arrivé là dans la société. Vous allez être admiratif devant cet enfant. Rapidement, je vais vous compter. Rapidement, moi, je suis l'aîné d'une famille de 8 enfants. Ma mère, elle a négligé les 16 autres parce que moi, j'étais intenable. J'étais intenable. À 5 ans, j'ai fait ma première fuite. Les policiers sont venus me reconduire à la maison. J'étais intenable. Ouais. Et ma mère a dû laisser tomber les 16 autres pour être capable de faire en sorte que je ne sombre pas dans une délinquance profonde. Quoi. Ouais. Il y a 25 ans, j'avais déjà quitté la maison, je suis allé voir ma mère, et elle m'a dit, je vais te faire une confidence. Tu es celui que je préfère parmi les 8 enfants. J'ai tellement passé de temps avec toi. Elle dit, quand je te tapais la nuit, je me réveillais, et je pleurais parce que j'avais dû te mettre en punition durant la journée. C'est incroyable, dans le cœur d'une mère. Hein? Ouais. Et ma mère, quand elle avait l'Alzheimer, elle avait perdu sa mémoire depuis 3 ans. Quand j'allais la voir, et que les infirmières lui disaient, « Votre fils Jacques, viens. » Elle rayonnait, les yeux, ils pétillaient. Ma mère, elle ne m'a jamais oublié. Elle a oublié qu'elle était mariée. Elle ne connaissait pas le nom de son mari. Elle ne connaissait pas le nom des 16 autres. Mais celui qui en avait fait baver, hein, excusez l'expression, ça s'en est rappelé jusqu'à ce que le Seigneur la rappelle à elle. Et dans sa grâce, Dieu m'a permis d'amener au Seigneur mon père et ma mère. Et je me disais à moi-même, « Seigneur, si je suis venu au monde simplement pour faire en sorte de permettre à mes parents d'avoir accès au paradis, ben, Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour les difficultés que j'ai causées à mes parents. Ouais, je te bénis. Ouais. Alors, celui qui va vous demander beaucoup d'efforts, hein, vous, sans vous en rendre compte, vous allez vous attacher énormément à cet enfant-là. Ça ne veut pas dire que vous aimez moins les autres. Quand on parle de préférence, on ne parle pas de moins aimer. Mais c'est qu'on voit des connexions ensemble parce qu'on a tellement passé du temps ensemble à investir. Et aujourd'hui, les parents, on a besoin d'investir du temps dans nos enfants et d'arrêter de penser que de laisser finalement cette éducation que nos enfants ont tant besoin dans le milieu familial, de laisser cette éducation à notre société qui ne sait pas où elle s'en va. C'est comme un bateau qui n'a pas d'angle, c'est comme un bateau qui est balotté au vent dans notre société aujourd'hui. Et vos enfants, dites-vous une chose, Dieu les aime, vos enfants, et Dieu veut le meilleur pour vos enfants. Amen? Oui. Et regardez ensuite ce qu'il dit ici. Les enfants sont l'espoir de la maison. Il est écrit au psaume 128, versets 3 et 4, « Chez toi, ta femme sera comme une vigne fertile, et tes fils autour de ta table comme de jeunes oliviers. Voilà comment sera béni l'homme qui est un fidèle du Seigneur. » Lorsque l'auteur compare l'épouse à une vigne fertile, ici il sous-entend l'épouse qui est séduisante, charmante et fidèle. La vigne embellit la maison, elle jette de l'ombrage sur la véranda. Elle donne de la fraîcheur à la maison et elle enrichit la table de raisins mûrs et succulents. Ainsi en est-il d'une épouse qui aime son mari. Elle est la couronne de son mari, c'est-à-dire son soutien et sa force. Oui. Les hommes et les femmes sont égaux, mais ils ont chacun des rôles différents. L'idéal de Dieu ne consiste pas à faire en sorte qu'un mariage dure, mais que l'homme et la femme progressent ensemble, se rapprochent de plus en plus près de l'un de l'autre et apprécient davantage la présence de l'autre. Parce qu'on se rappelle toujours les raisons, là où les raisons qui nous ont amenés à aimer cette personne. Souvent, c'est le contraire dans le mariage. Hein? Ouais. On est comme ça au début, et plus ça va. Ouais. On regarde l'autre où il est rendu. Il est rendu très loin, quoi. Alors que ça devrait être tout le contraire. Hein? Ça devrait être tout le contraire. Et notre société, elle n'est pas faite pour encourager le mariage. Hein? Elle n'est pas faite pour encourager les couples à vivre ensemble. Hein? Ouais. Chacun a nos activités sportives de leur côté. Chacun a leurs relations de leur côté. Chacun a leur petit jardin de leur côté. Finalement, les deux se retrouvent et ce sont deux étrangers parce qu'ils ont vécu plus souvent avec les autres qu'avec eux-mêmes dans la maison. Et les enfants dans tout ça, frères et sœurs, les enfants, mes amis, qu'arrive-t-il avec les enfants? Et encore une fois, ce sont les étrangers qui s'en sont occupés, avec souvent des conséquences qui sont douloureuses pour les parents. Le défi pour un mari, c'est de toujours trouver sa femme séduisante, et ce même après 20, 30, 40 et même 50 ans de mariage. Le défi pour la femme, c'est de continuer à fixer ses yeux sur ses qualités plutôt que sur ses défauts. Et là, je parle en tant qu'homme, on a de gros défauts que les femmes découvrent quand on se marie, c'est qu'on laisse traîner nos chaussettes, nos slips et nos affaires. On peut voir où l'homme a passé avant d'aller à la salle de bain, il laisse tout traîner. Ça, c'est le grand grief des femmes, hein? C'est vrai, hein? Il l'a toujours fait toute sa vie, mais là, on est marié, on le voit maintenant, hein? Ouais. Mais quand on sait que c'est la nôtre, quand on sait que c'est le nôtre, quelle bénédiction, parce que le mariage, c'est une belle expérience à vivre jour après jour. Le mariage, c'est une expérience à renouveler jour après jour, mais il faut être deux pour pouvoir continuer. Il faut être deux pour pouvoir poursuivre le chemin. Tout seul, tôt ou tard, ça brise. Mais on se rappelle les promesses qu'on a faites quand on s'est marié, et c'est une belle expérience à vivre. Surtout avec nos enfants, on les voit progresser et ils nous ressemblent. Et on a de l'amour pour nos enfants. Dans ce passage, les jeunes oliviers sous-entendent un grand potentiel pour le futur. Les oliviers, parce que des oliviers arrivés à maturité produisent des fruits en abondance, du bois et de l'huile précieuse. De même, les enfants que Dieu nous a donnés ont un énorme potentiel pour apporter beaucoup dans ce monde. Et lorsqu'ils arrivent à maturité, quelle satisfaction pour nous de voir leur merveilleuse capacité. Chers amis, quel privilège que Dieu nous donne d'être les gardiens de ces vases de bénédiction que sont nos enfants et qui nous représenteront tôt ou tard dans la société. Et personne ne peut prédire ce qu'un enfant peut devenir. Personne. Personne. Ouais. Le Seigneur aime les petits-enfants et il devrait en être de même pour nous. Jésus, je le répète, dit à ses disciples qui cherchaient à empêcher des gens à amener leurs enfants, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. » Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui n'accepte pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y rentrer. Maintenant, je vais vous demander de faire un effort incroyable ce matin, à partir de là, pendant 5 minutes. Ouais. Essayez de mettre votre cœur d'adulte de côté et de faire ressortir votre cœur d'enfant, ce cœur innocent. Je vais vous partager quelque chose. Si vous écoutez avec votre cœur d'adulte, vous allez dire, ce gars-là, c'est un taré, c'est lui qui parle en avant. Vous allez boucher vos oreilles, pas les oreilles physiques, vous allez boucher les oreilles de votre cœur et vous n'entendrez pas le message que Dieu en réserve pour chacun de vous ce matin. Dieu connaît vos besoins. Vous avez reçu une invitation à participer à cette réunion ce matin, mais ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un rendez-vous que Dieu vous avait donné depuis toute éternité. Vous avez deux choix. Soit vous vous fermez les oreilles à ce que Dieu a à vous dire ce matin. Soit vous fermez les yeux parce que vous refusez aussi de voir les belles choses que Dieu a pour vous ce matin. Et vous allez retourner comme quand vous êtes entré, avec rien de plus et rien de moins. Mais si vous venez avec votre cœur d'enfant, eh bien, il y a des choses, Dieu peut faire de belles dans votre cœur ce matin. Et je ne vous dis pas que vous allez être bouleversé, mais vous allez retourner. Vous allez commencer à méditer sur les choses que vous avez entendues. Et vous serez peut-être ouvert à donner une seconde chance à Dieu pour qu'il puisse transformer vos vies, pour qu'il puisse vous donner un message d'espoir dans ce monde démoralisé, découragé, où le taux de suicide chez nos jeunes en Belgique est un des plus hauts taux dans le monde entier. C'est le Québec qui est le champion. Pourtant, au Québec, presque tous nos ados ont une voiture, presque toutes nos maisons ont des piscines. Les ados, ils ont tout ce qu'ils veulent, sauf l'essentiel, ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Cette semaine, il s'est passé des bagarres à Bruxelles. Il y a un assistant social qui a dit, « J'ai vu la haine dans les yeux des enfants, des adolescents, parce qu'ils n'ont pas de sens, on n'a pas pu leur donner un sens à leur vie. » Quel est le sens de votre vie, chers amis, ce matin? Quel est le sens de votre vie? Travailler toute la semaine, aller prendre un bon repas le vendredi, aller voir un bon spectacle le samedi, vous reposer dimanche parce que la semaine va recommencer. Est-ce que c'est ça tout le sens que vous donnez à votre vie ce matin? Ouais. Et après la vie. Si vous ne prenez pas le temps d'éduquer vos enfants, ils vont vous corder, ils vont vous placer dans des maisons de repos. Moi, je visite des gens dans des maisons de repos. Ça fait 10 ans, 15 ans que les enfants ne sont pas allés les visiter. Ouais. On est allé voir maman et papa dans une maison de repos. On leur a dit qu'on les aimait jusqu'à temps qu'on leur fasse signer la maison. Quand ils ont eu le papier, pour se rendre chez le notaire et toucher l'argent de la maison. Les parents ne les ont plus jamais vus. C'est vraiment important qu'on puisse transmettre l'amour de Dieu à nos enfants, qu'on n'est pas des choses, mais qu'on était créé par Dieu, qu'on était créé à l'image de Dieu, qu'on était créé à la ressemblance de Dieu, et qu'on est le top, on est le top dans la création de Dieu. Est-ce que vous réalisez ça? Est-ce que vous réalisez ça? Aussi méchant qu'on peut être, aussi menteur qu'on peut être, aussi tordu qu'on peut être, la Bible nous dit, le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître? Et Dieu nous aime. Est-ce que vous réalisez que Dieu vous aime? Combien vous avez aimé des hommes dans vos vies qui vous ont dit qu'ils ne vous abandonneraient jamais? Ils sont où aujourd'hui? Combien vous avez aimé de femmes qui vous ont dit qu'ils vous aimaient dans votre vie? Ils sont où aujourd'hui? Vous portez encore les peines d'amour de ces personnes-là dans votre cœur. Et Dieu est capable d'effacer ça. Par un miracle extraordinaire, Dieu est capable d'effacer ces blessures de la vie que vous avez eues. Dans le passage que je viens de lire concernant « Laissez venir à moi les petits-enfants », Jésus dit à tous ceux qui viennent à lui, pardon, qu'ils doivent venir à lui comme un petit enfant. Et il fait référence ici à certaines caractéristiques particulières qui séparent les enfants des adultes. Et ce matin, je vais vous lire quelque chose rapidement, et vous me direz si vous vous pensez encore comme un enfant, ou si vous êtes rentré, vous avez mis les deux pieds dans un monde d'adultes. Les enfants font confiance. Faites-vous toujours confiance. Ils sont humbles. Êtes-vous humbles. Ils sont dépendants. Êtes-vous indépendants ou dépendants. Ils font tellement confiance que nous devons les avertir de ne pas parler aux étrangers. Ils sont si humbles qu'ils acceptent tout ce que l'on va leur dire. Et ce, peu importe le ton que nous allons employer. Est-ce que c'est votre cas ce matin? Est-ce que c'est mon cas ce matin? Ils sont tellement dépendants qu'ils se reposent tout simplement sur la capacité et la volonté de ceux qui les entourent pour se rassurer qu'ils ne manqueront de rien. Est-ce que c'est votre cas ce matin? Est-ce que c'est mon cas ce matin, chers amis? Ils ne s'inquiètent pas au sujet de la nourriture, des vêtements ou du logement. Ils ne s'inquiètent pas de savoir qui va payer les factures. Est-ce que c'est votre cas ce matin? Est-ce que c'est mon cas ce matin? Jésus dit, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Et c'est une belle phrase, à chaque jour suffit sa peine. Pourquoi s'énerver pour demain ou la semaine prochaine quand on ne sait même pas qu'on va être encore en vie? À chaque jour suffit sa peine. Moi, j'ai une carrière, j'ai été dans la police. Hein? Et quand j'ai quitté la police, on m'a traité de Saint-Lie parce que je laissais tomber un gros fonds de pension. Ouais. Et les gens sont esclaves de leurs conditions de travail où je travaillais. On était 150 policiers dans notre poste. Et s'ils étaient mis à réfléchir un peu, depuis 100 ans, il y avait un seul policier qui avait réussi à prendre sa pension. Tellement que ça bouge au Québec, tellement que ça bouge au Canada. Les gens meurent de crise de cœur, meurent de cancer, meurent de toutes sortes de choses, les policiers. C'est très difficile. Ouais. Et on m'a traité de fou. Et il y a des gens qui restent dans la police, si on leur donnait la liberté de quitter la police, ils la quitteraient. Mais ils demeurent parce qu'ils sont esclaves de leurs conditions de travail, les bénéfices. Est-ce que vous êtes esclaves de vos conditions de travail ce matin? Ouais. Avez-vous la certitude, peu importe l'âge que vous avez, qu'un jour vous allez toucher votre pension? Mon père a travaillé 16 heures par jour toute sa vie, il n'a jamais pris de vacances, on n'a jamais connu des vacances dans ma famille. Il a touché un chèque de pension, il est mort après. Ouais. Ça, c'est pour ça qu'il avait vécu toute sa vie. Il est mort à 65 ans et un mois. Ouais. Ouais. À chaque jour suffit sa peine. Ouais. Vivez-vous aujourd'hui ou si vous planifiez déjà pour demain, sans savoir si demain vous allez être encore en vie, malgré tout ce que les gouvernements nous promettent. Pour ceux qui ne sont pas encore à leur pension, moi j'ai 68 ans, c'est différent, mais pour ceux qui, je continue à travailler, mais pour ceux qui n'ont pas encore leur pension, peut-être qu'au moment où vous allez prendre votre pension, il n'y aura peut-être plus d'argent dans les caisses. On est allé faire une tournée en Ukraine. Hein? Ouais. Eh bien, le gouvernement en Ukraine, les gens touchaient 1 000 euros par mois, et d'un coup, hein, il les a descendus à 100 euros par mois. Il n'y a plus d'argent dans les caisses en Ukraine. Hein? Et les gens mangent les pots de conserve qu'ils ont fait durant l'automne, qu'ils ont enterrés dans le sous-sol. Et leur repas, c'est qu'ils font trempette dans le bouillon des sauces avec des morceaux de tomates, avec des morceaux de légumes qu'ils ont fait bouillir pour tenir l'hiver. Il y a des parents dont des filles ont marié des Belges qui demandent à leurs enfants s'ils peuvent venir passer l'hiver ici parce qu'ils n'ont rien pour chauffer. Ils avaient eu tellement de promesses de leur gouvernement. Et aujourd'hui, l'Ukraine est en guerre. C'est un pays qui est en guerre et qu'on laisse continuer. On laisse continuer la guerre. Il y a des enfants qui marchent sur des mines antipersonnelles à chaque jour et qui meurent. Ouais. Les enfants ne s'inquiètent pas de la nourriture, des vêtements et du logement. Ils ne s'inquiètent pas de ce qui va payer ses factures. Les enfants ne doutent pas que les membres de leur famille les aiment. Est-ce que vous doutez que les membres de vos familles vous aiment, chers amis? Est-ce que vous doutez ce matin que Dieu vous aime? Ils acceptent simplement les choses par la foi. Ils ne regardent pas au-delà de l'évidence. Ils font simplement croire. Ouais. Chers amis, ce sont là les conditions pour qu'une personne vienne à Jésus et voir sa vie transformée, quel que soit son âge. Il suffit comme un enfant d'être disposé à s'humilier et à reconnaître son péché devant Dieu. Il suffit d'être prêt à reconnaître que les bonnes œuvres que nous avons accomplies dans notre vie n'effaceront jamais un seul péché et ne nous ouvriront jamais les portes du paradis. Nous devons en arriver au point où, comme un petit enfant, nous devons nous tourner par la foi vers Jésus et lui faire confiance qu'il fera tout ce qu'il a promis. Chers amis, Jésus a tout accompli sur la croix pour que nous recevions le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Il suffit de venir à lui tel que vous êtes, comme un enfant, dans un esprit d'humilité, en sachant que vous dépendez entièrement de lui pour recevoir le pardon de vos péchés. Chers amis, je ne connais pas votre vie. Je ne sais pas si vous avez fait des choses qui vous torturent encore aujourd'hui. Mais il n'y a pas un seul péché que Dieu ne peut pas vous pardonner. Je rappelle toujours cette image qu'on a dans la parole, parce que c'est un fait vécu. Jésus est mort entre deux malfaiteurs. Ouais. Deux malfaiteurs. Probablement qu'il y en a un, les deux avaient fait des choses qui étaient pires encore que Dutroux, le maître Dutroux. Il y en a un qui a décidé de mourir dans son péché, qui a craché sur Jésus, qui l'a insulté jusqu'à la fin. Et l'autre, il a réalisé que celui qui mourait à côté de lui n'avait jamais rien fait de mal, c'est ce qu'il dit. Ouais. Et malgré tout ce qu'il avait fait dans son passé, le simple fait qu'il avait dit, « Seigneur, rappelle-toi de moi quand tu reviendras. Rappelle-toi de moi. Ce que moi je mérite aujourd'hui, je suis sur la croix, ce que je mérite, c'est juste. Mais toi, tu n'as rien fait de mal. » Et chers amis, celui qui n'a rien fait de mal a pris sur lui les péchés de ceux qui ont commis du mal dans leur vie. Ça, c'est l'Évangile, ça. Je ne suis pas en train de vous parler d'une religion. Je suis en train de vous parler d'une personne. Une personne qui vous aime. Cette personne, Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme. Et Jésus a simplement fait ceci. Et c'est ça, là, c'est de passer de la mort à la vie. Ça, c'est une résurrection que vous avez maintenant. C'est un miracle qu'on ne voit pas, mais qui se passe à l'intérieur de nous et que les gens vont voir. Moi, quand je suis retourné dans ma famille, ils m'ont dit, « Jacques, tu as quelque chose de différent. Jacques, tu n'es plus pareil comme avant. » Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est le message de l'Évangile? Et rapidement, hein? La Bible nous dit qu'on a tous péché. Alors, c'est pas compliqué. La Bible, elle ne nous dit pas, « Toi, tu as fait plus de péché qu'un autre. » Elle nous dit, « Tu as tous péché. Vous avez tous péché et vous êtes tous privés d'entrer au ciel. » Ça, c'est le message de l'Évangile. Ah, ça, c'est décourageant, c'est démoralisant, n'est-ce pas? Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit que Dieu nous a donné un moyen de faire en sorte que nos péchés soient effacés et de nous ouvrir les portes du paradis. Et de commencer une nouvelle vie maintenant sur la terre, dans la joie et dans la paix. Une paix qui vient d'en haut, et une joie qui vient d'en haut, et un amour qui vient d'en haut. Pas l'amour des hommes, pas la paix des hommes. Vous vous souvenez ce qu'Hitler disait? Moi, là, une alliance, je la respecte tant aussi longtemps qu'elle est à mon avantage. Quand elle ne l'est pas, mais Dieu respecte sa signature, et sa signature, il l'a signée avec le sang. Il l'a signée avec le sang de son Fils. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Bien, Jésus, ce qu'il a fait, Jésus était sans péché. Sans péché. Sans péché. Regardez bien, je vais vous donner une petite image. Il était sans péché. Ça, c'est Jacques Hudon. J'ai 78 ans, donc je calcule que mon livre de tout ce que j'ai fait de mal, ça pourrait être aussi épais que ça. Ouais. Jésus n'a rien fait de mal. Il y a un livre blanc dans ses mains. Il vient à la croix et dit, écoute bien, je suis prêt à porter tous les péchés que tu as commis dans ta vie. Es-tu prêt à me donner tous tes péchés? Si je donne, vous donnez vos péchés à Jésus aujourd'hui, votre vie à Jésus. En retour, il vous donne sa propre vie qui est juste aux yeux de Dieu. Et Dieu ne vous voit plus à travers vos péchés, il vous voit à travers la vie de Jésus. Ça, c'est le message de l'Évangile. Parce que vos péchés, la punition que vous méritiez pour vos péchés, pour mes péchés, Dieu l'a cloué à la croix avec Jésus-Christ. Lui, le juste, a été puni pour des injustes. Nous qui méritions l'enfer, il a subi l'enfer à la croix. Ça, c'est le message de l'Évangile. Ouais. Quand la Bible nous dit qu'il a versé son sang pour vous et pour moi, eh bien, il a donné sa vie pour vous et pour moi. Alors, soit que Jésus ne demeure qu'un nom pour vous, aujourd'hui, quand vous allez quitter, ou une réalité dans vos vies. Une personne qui est vivante, une personne qui est capable de faire encore des miracles aujourd'hui dans vos vies. Parce que vous aurez parti d'ici et dans votre cœur, vous aurez dit, « Seigneur Jésus, avec mon cœur d'enfant, je reconnais que j'ai commis du mal, je reconnais que j'ai fait des péchés. Et Seigneur, je te remercie, je te lirai même mes péchés. Seigneur, prends mes péchés, porte-les et donne-moi en retour ta justice. Donne-moi ton amour, donne-moi ta paix, donne-moi ta joie, Seigneur. Ouais. » Ça, c'est le miracle. Ça, c'est l'Évangile. Je ne suis pas en train de vous dire de rentrer dans la religion baptiste. C'est pas ça que je vous dis. Je suis simplement en train de vous inviter à vivre une relation vivante et personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et les parents qui ont présenté leurs enfants ce matin, eh bien, ils l'ont fait avec joie. Pas pour vous embarquer personne dans quoi que ce soit. Simplement pour vous montrer que leur croyance, simplement vous montrer leur foi et finalement cette continuité de leur foi qu'ils veulent projeter dans la vie de leurs enfants. Chers amis, on a un Dieu extraordinaire. On a un Dieu extraordinaire qui n'est pas lointain. S'il tient l'univers dans ses mains, il est venu sur la terre à travers Jésus-Christ, il est venu vous parler. Aujourd'hui encore, il vous parle à travers sa parole. Dieu vous aime et il ne rejettera pas. Il ne vous rejettera pas si vous venez à lui. Peu importe le genre de vie que vous avez vécu, peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous pensez que vous êtes, si vous êtes pensé que vous êtes quelqu'un qui est sans importance, chaque personne aux yeux de Dieu a une valeur inestimable. Je vais aller plus loin que ça, hein. Si vous étiez la seule personne à être sauvée dans tout l'univers, Dieu se serait fait homme dans la personne de Jésus-Christ, il serait venu mourir pour vous. Ouais. Dieu nous aime tous de façon égale, tous. Dieu, contrairement aux êtres humains, ne fait pas de favoritisme. Dieu vous aime tous. Dieu m'aime comme il vous aime. Dieu aime Jésus comme il vous aime. C'est ce que Jésus dit dans l'Évangile de Jean. C'est extraordinaire, c'est une bonne nouvelle, ça. Ouais. Vous rentrez dans un autre monde. Vous rentrez avec une nouvelle espérance. Ouais. Et là, on rentre dans le domaine de l'éternité. Parce que, chers amis, la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, Dieu va mettre fin à toute chose sur la terre. Hein? Oui. Ouais. Il y a un jugement qui s'en vient. Hein? Je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis en train de vous dire l'Évangile. Hein? Oui. Et comme le malfaiteur sur la croix qui a dit à Jésus, « Rassouviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne », eh bien, Jésus va revenir un jour aussi parce qu'il est ressuscité. Il va revenir. Et là, il ne viendra pas comme un agneau. Il va venir comme un lion, il va venir régler ses comptes avec l'humanité. Et chers amis, tous ceux qui lui appartiennent, eh bien, Dieu a des choses merveilleuses en réserve pour eux. Ouais. C'est vrai que la justice ne règne pas sur cette terre, mais ce n'est pas la justice de Dieu, c'est la justice des hommes. Et ça fait pitié de voir la justice des hommes. Moi, je peux vous dire qu'en tant que policier, j'ai toujours dit que j'avais travaillé pour le ministère de l'injustice, parce que j'ai vu la justice des pauvres et la justice des riches. Mais Dieu, on ne peut pas en passer des rapides à Dieu. On ne peut pas acheter Dieu. Dieu, c'est un juste juge qui ne veut pas exercer son jugement, qui veut faire grâce, qui veut vous faire grâce ce matin. Maintenant, si vous avez toujours votre cœur d'enfant, faites ça pas de foi. Je ne vous demande pas de lever la main, je ne vous demande pas de vous lever, je ne vous demande pas de confesser le nom de Jésus à haute voix dans votre cœur ce matin. Retournez à la maison avec ça. Retournez à la maison. Oui, avec ça après. Ouais. Mais faites ce pas de foi ce matin, ça vaut la peine. La seule chose que vous allez regretter si vous faites ce pas de foi, c'est de ne pas avoir fait ce pas de foi avant. C'est de ne pas avoir fait ce pas de foi avant. Et c'est une opportunité extraordinaire que Dieu vous donne ce matin d'entendre l'Évangile. Il y a des gens qui n'entendront jamais dans leur vie. Jamais, jamais dans leur vie. Ouais. Quel Dieu nous avons, quel Dieu merveilleux nous avons, chers amis. Un Dieu qui a pitié de sa créature. Un Dieu qui veut lui donner l'opportunité de régner dans le paradis pour l'éternité. Parce que la Bible nous dit aussi qu'il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux, où tout ce qu'on voit de crasseux dans le monde, ça n'existera plus, parce que Dieu va avoir fait un nettoyage complet. Il est écrit par la suite que Jésus prit les enfants dans ses bras, qu'il passait sa main sur chacun d'eux, et il les bénit. C'est ce que Dieu fera avec vous, c'est à lui comme un petit enfant ce matin. Chers amis, j'ai eu un cancer il y a 10 ans, il donnait 6 mois à vivre. Il n'y avait pas d'opération possible. Je connaissais Dieu comme mon Créateur. Je connaissais Dieu comme mon Sauveur. Et là, j'ai rencontré Dieu comme mon Père. Et tout au long de mon cancer, j'ai senti vraiment que Dieu me portait comme un père, comme un père. Ouais. Ouais. Et au bout de 6 mois, j'ai entendu l'Esprit de Dieu qui m'a dit, « Je t'ai guéri. » Je t'ai guéri. Je ne suis pas en train de vous raconter des blagues. Mon médecin m'a dit, « Je te donne 6 mois à vivre. Je t'enterre dans 6 mois. » Et ça fait 10 ans. Ouais. Dieu fait encore des miracles dans votre vie. Dieu guérit encore aujourd'hui. Mais au-delà des guérisons physiques, c'est les guérisons de l'âme que Dieu veut opérer. Parce que la plupart d'entre nous aujourd'hui, on est des estropiés de la vie. On vit dans un monde qui cherche à nous écorcher année après année. Et Dieu est capable de panser ses blessures. Parce que Dieu vous aime en Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et Dieu veut que vous passiez l'éternité avec lui dans sa présence. Oui. Dans quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer comme paradis. Pas un paradis décrit par les hommes, mais un paradis extraordinaire que la Bible décrit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et si vous avez des enfants, rappelez-vous que c'est un don de Dieu. Mais que les familles heureuses sont aussi un don de Dieu. Rappelez-vous que les bénédictions de Dieu sont disponibles pour quiconque les recherche. Et troisièmement, rappelez-vous que nous retrouvons les vraies valeurs, qu'il est important que nous retrouvions les vraies valeurs qui définissent une vraie famille. Une famille dont les membres s'aiment vaut plus que tout l'or qui se trouve dans les réserves du pays. Nous devons honorer nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Heureuse est la famille où il y a un héritage de Dieu qui s'est transmis de génération en génération. Dieu bénit ses grands-parents, Dieu bénit ses arrière-grands-parents qui investissent leur temps, leur énergie, leurs larmes et leurs prières dans la vie de leurs petits-enfants et de leurs arrière-petits-enfants. Nous devons continuer à soutenir nos parents célibataires, nos beaux-parents, nos parents qui ont adopté des enfants et ceux qui vivent dans des familles recomposées. Il arrive parfois que leur fardeau est plus grand parce que le portrait d'une famille heureuse mentionné dans le psaume 128 ici n'est pas entièrement réalisable, mais ces gens ont besoin de notre soutien et non pas de notre, condamnation. Chers amis, s'investir et se voir à travers notre génération première, nos enfants, mais après nos petits-enfants. Après nos petits-enfants, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais. Moi, je me retrouve maintenant à travers mon petit-fils. Ouais. Et c'est une promesse de Dieu, ça. Celui qui marche dans les voies de Dieu verra sa progéniture, ses enfants, ses petits-enfants et même ses arrière-petits-enfants. Ouais. Dieu donne longue vie. Dieu donne longue vie à ses enfants. Ouais. Et un dernier mot en terminant, le verset 6 du psaume 128 se termine par une prière. Et tu pourras voir les enfants de tes enfants, ce que je viens de dire. J'ai lu quelque part cette paraphrase, « Puissiez-vous vivre suffisamment longtemps pour voir vos petits-enfants jouer à vos pieds. » J'ai donc prié que le Seigneur puisse m'accorder de vivre suffisamment longtemps pour voir mon premier petit-fils. Et Dieu a répondu à cette prière, comme je viens de dire le jour, et j'ai pu tenir dans mes bras ce petit-fils qui s'appelle Ethan. Et j'essayais de me retrouver à travers mes quatre premiers enfants. Mais là, je peux vous dire une chose, les parents ont besoin de s'atteler parce que celui-là, il me ressemble, c'est une copie conforme à ce que j'étais. Et c'est un futé, c'est un rapide. Et quand il essaie de m'en passer une vite, je lui dis, il y a quelqu'un qui est au monde avant toi et c'est moi. Hein? Moi, je te connais, quoi. Ouais, ouais. Ça, c'est notre progéniture, c'est extraordinaire. Hein? Et ça, c'est le bonheur et la joie que Dieu m'a donné. Écoute bien, tu veux savoir ce que tu étais quand tu étais jeune? Regarde ton petit-fils. Et avertis déjà les parents qui ont besoin de retrousser les bras parce qu'il va les empêcher de mourir d'ennui, celui-là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous lever.